Depuis 3 ans, avec le soutien du ciel, pôle eau, rivière et assainissement de la communauté de communes Lodévois et Larzac, Résurgence s'empare de la thématique environnementale et propose des rendez-vous artistiques qui mettent l'eau et la biodiversité à l'honneur. C'est l'occasion, par l'artistique et la poésie, par les éclairages scientifiques et techniques, d'informer le grand public et d'alimenter la réflexion collective autour de la préservation de notre environnement et de ses ressources. Histoire d'eau en Lodévois, Larzac, c'est du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai à Lodév et Lauroux. Pour nous donner l'eau à la bouche, écoutons de ce pas les artistes de la compagnie La Bouillonnante, du collectif La Méandre, de la compagnie Pneumotechnique Éboin et le conférencier Olivier Hébrard.
Au bord de la route, il y a un arbre gigantesque. Il doit avoir au moins 400 ans. Ses branches croulent au sol. J'y accroche un bout de tissu qui avait servi à protéger mon vélo pour qu'il continue bien sa route et qu'il m'emmène jusqu'au bout du voyage sans se faire mal. Sur mon vélo, je traverse des paysages. Je rencontre des gens. Ah, j'adore les petites routes. Les petites routes blanches, celles du temps d'avant, qui contournent, qui détournent, qui montent, qui descendent. Tiens, la petite route blanche devient un chemin de cailloux, le chemin du temps perdu.
Et si désormais on faisait un pas de côté, et si on se laissait aller à pédaler contre vents et marées, et qu'on s'amusait à se raconter des histoires, quitte à se faire peur, et si on prenait l'air pour capter l'air du temps, partir en bicyclette et nous émerveiller, c'est ce à quoi s'est attelée Charlotte Tessier, actrice, écrivaine et conceptrice du spectacle Le Nez au Vent, récit d'une aventure sur bicyclette. Pour la compagnie Bouillonnante, elle nous livrera le fruit de son aventure cycliste de plusieurs jours, le dimanche 26 mai à 17h30 à Lauroux. Bonjour Charlotte.
Bonjour.
Pour cette création, donc, vous avez décidé d'enfourcher ce que vous appelez votre vélo intérieur autant que votre bicyclette, donc pour éprouver le territoire.
Eh bien, c'est ça. Je vais venir depuis chez moi à vélo, un train-vélo. Je vais remonter l'eau, la rivière, jusqu'à Lauroux.
Oui, tout à fait. Vous allez partir de Montpellier.
Oui, bah voilà, je m'avance un petit peu, excusez-moi, je m'avance un petit peu jusqu'à Montpellier en train. Et puis après, je remonterai pour avoir le temps de prendre le temps à côté de chez vous, de rencontrer des gens, de regarder le paysage, de voir ce que ça m'évoque, que ça me provoque. Et je vais enregistrer, écrire tout ça et vous le raconter le dimanche au bord de la rivière à Lauroux.
Une expérience là complètement immersive dans votre travail de comédienne. Vous aviez déjà eu l'occasion, notamment avec la compagnie des arroseurs, d'aller à la rencontre des gens, de récolter des témoignages. Mais là, c'est une aventure que vous vouliez vivre à bras-le-corps davantage et partir là vraiment sur le terrain, comme on dit.
Et ouais, c'est vrai que le rapport au terrain, il est là depuis les débuts, depuis mes 23 ans. Avec Périne, on avait construit des spectacles à partir de recueils de témoignages. Après, là, je suis allée rencontrer les gens dans le silence avec mes Laporte et nos portraits poétiques. Et puis là, j'ai eu envie de retourner à l'endroit du jeu de la comédienne et donc de retourner vers un spectacle, en tout cas avec un public. Mais toujours, par contre, dans cette envie d'être en immersion sur les lieux, de faire un peu du... Alors, c'est du micro in situ, hein, parce que c'est pas trop long, c'est pas un énorme projet de territoire, c'est 2-3 jours de vélo, mais c'est pour moi un grand plaisir de voir renouveler chaque récit à chaque fois avec le ton du lieu et puis les propositions qui sont faites sur le moment. Ce qui est important aussi à dire, c'est que c'est un récit de mots et d'images. Je vais pas être toute seule, on est deux à raconter le voyage en mots et en images. Il y aura Simène Voronkov qui est là et qui dessine au fusain.
D'accord, c'était important aussi pour vous qu'il y ait une trace visuelle par rapport à la mémoire de ce que vous vivez.
Oui, et puis c'est aussi, j'avais dès le départ l'envie qu'il y ait une autre artiste ou un autre artiste qui accompagne le récit pour pas que je sois seule et puis que le public puisse divaguer, en fait, comme en voyage, puisse m'écouter et puis regarder ailleurs. Et là, les dessins de Chimène font une crasse de chaque petit moment, parce que c'est vrai que ça passe un peu du coq à l'âne, hein, je raconte un récit du coq à l'âne. Voilà. On passe d'une image à une autre, comme quand on est en voyage et qu'on se rappelle de petits souvenirs par bribes et fragments. Du coup, les dessins de Chimène, ils laissent une trace aussi tout au long du spectacle pour, voilà, pour se souvenir. Ah oui, il y a eu ce monsieur-là, oui, c'est vrai. Ah oui, il y a eu tel paysage traversé. C'est aussi l'envie de voir l'artiste au travail, enfin, sur le moment. C'est-à-dire que moi, je raconte, mais Chimène, je la vois en pleine action. Elle fait les dessins en direct. Donc, y avait ça que j'avais envie de donner à voir, qu'on est en train de créer sur les chemins.
Et à un moment donné, on s'aperçoit qu'on a loupé la bifurcation. Je m'enfonce dans le bois. Je file dans les feuilles. Se faire avaler par le ver. N'être plus qu'un petit point sur un sentier. Je m'arrête au bord d'un étang. Il est 8 heures. Le balai des oiseaux, le vrombissement de leurs ailes. C'est bleu vert, vert bouteille. C'est calme. Oh ben voilà, c'est fait. Ça y est, je suis dans mon hamac. Dehors, entre deux arbres, il y a des grenouilles qui chantent, des crapauds qui croissent. La lune brille au-dessus avec toutes les petites étoiles. Je suis comme dans un cocon. Ah, je suis bien. Ça y est, je l'ai fait. C'est le début d'être une aventurière.
Vous emmenez avec vous votre enregistreur, donc en tant qu'animateur radio, ça fait toujours plaisir. Mais pour vous interviewer vous-même, en quelque sorte, qu'est-ce que vous vous racontez dans ces moments où vous captez votre voix in situ pendant le voyage?
C'est un grand plaisir de parler seule, en fait, d'avoir le droit de parler seule. Je pars toute seule sur mon vélo. En fait, ce que je vois pendant le voyage, c'est assez fugace. C'est comme les rêves. Si je les chope pas tout de suite et que j'écris après, je vais avoir une vision très générale du voyage. Alors que là, j'ai vraiment des tout petits souvenirs des fois, et puis des phrases qui me viennent au bout d'un moment avec l'effort. J'ai mon je pense le cerveau est bien aéré et il devient poétique au bout d'une journée. J'ai vraiment des petits élans poétiques qui m'arrivent, et ça, si je le chope pas tout de suite, c'est trop tard. Et donc voilà, j'ai tout simplement mon téléphone avec mon petit écouteur, et puis je m'enregistre à des moments, je chante des chansons, j'écris à vélo, quoi. C'est des fois des paysages que je vois, j'ai des phrases qui m'arrivent en regardant des tournesols recroquevillés sur eux-mêmes. Bon, là, ce sera pas la saison, donc ce sera pas ça dont je parlerai. Après, il y a les gens que je rencontre, des fois des choses qui me viennent à l'intérieur, des pensées sur ma vie, et puis des réflexions par rapport aux paysages que je traverse. Du coup, ça va m'évoquer des choses à moi. Et puis, ça va aussi je vais aller voir, rencontrer des gens peut-être qui habitent là, et leur poser des questions sur quelles sont les spécificités de l'endroit où ils vivent. Et si j'ai une ou deux questions, je sais pas, moi, si je rencontre un vigneron, une bergère, je sais pas qui je vais rencontrer, on va voir.
C'est l'occasion également de partager vos réflexions. Pour votre spectacle, vous parlez d'ode à la lenteur notamment, et aussi vous allez peut-être évoquer les joies de l'enfance. Il y a un rapport à l'enfance.
Tout à fait. En tant qu'artiste, il y a le jeu de l'enfance, c'est là, quoi. Et en fait, je pense que c'est plus dans alors je sais pas, vous viendrez, vous me direz comment vous l'avez vu. Moi, c'est plus dans mon énergie, je pense. En fait, quand je suis le vélo, c'est le sport que j'ai fait quand j'étais petite, tout simplement. Et du coup, quand je suis à vélo, ben, il y a tout ça qui remonte, quoi. Et c'est un état d'être que je retrouve et qui est très puissant pour l'écriture, pour la création, ce que je raconte, en fait. Et moi, mon envie, c'était de partager des moments simples qu'on peut vivre dans la vie. Et moi, cet endroit-là, pour moi, il est hyper riche, et ça me réinspire, ça me renourrit, mais parce qu'aussi je suis à cet endroit de souvenirs marquants de l'enfance, quoi. Voilà.
Il y a aussi cette envie presque de vivre votre utopie, une utopie, quoi. personnel, quoi. Pour ce spectacle, vous rêvez d'un monde sans voiture. Et là, c'est l'occasion, justement, de faire en effet ce pas de côté très important dans nos vies.
C'est ça. En fait, on est dans un moment de vie de planète qui est un peu catastrophique. Et là, en fait, avec ce récit, c'est un peu l'envie de... Alors, c'est très naïf, peut-être, mais... C'est l'envie de dire, mais en fait, ça se trouve, dans 20 ans, on sera tous à vélo. Et de trouver des endroits d'espoir et de dire, en fait, des vacances à vélo, 2 jours, 3 jours, parce qu'il y a des gens, ils disent, ah oui, mais moi, je veux faire du vélo, mais ce serait pour aller au bout du monde, partir 6 mois. Alors oui, c'est super. Moi, j'ai jamais eu encore le temps de le faire et le courage de le faire. Mais en fait, déjà 2-3 jours à côté de chez soi, déjà, c'est tellement dépaysant. C'est tellement bon. Enfin, c'est comme quand on part marcher 2-3 jours, juste 2-3 jours, en fait, déjà. C'est mieux que d'aller en week-end prendre un billet d'avion à Ryanair pour aller, je sais pas où, à 5 heures de vol pour 3 jours, quoi. Voilà, j'avais envie de partager ça, en tout cas ce moment de bouffée d'air que ça peut donner. Après, je dis pas, parce qu'il y a évidemment plein de gens qui le font déjà, mais en tout cas de rendre hommage à ça aussi. Voilà.
De vivre les aventures, c'est possible, on n'est en effet pas obligé de partir loin. Si on veut vaincre ses peurs, aller à la rencontre de l'autre, vaincre ses peurs de l'autre aussi, oui, en effet, il suffit de prendre son vélo et d'aller prendre les chemins, quoi.
Mmh.
On a beaucoup participé aussi avec la radio à des plateaux sur la mobilité douce, et c'est vrai que c'est quelque chose de très important, et on voit que les municipalités, ou en tout cas les communautés de communes, prennent quand même un peu cause pour les mobilités douces en général, et sont sensibles à ça aussi dans le coin. Ça fait plaisir.
Mmh.
Ça va être un moment poétique, ça va être un moment d'évasion, un moment aussi politique, on pourrait dire. Que dire de plus pour inviter nos auditeurs à vous retrouver pendant cet événement Histoire d'eau en Le Dévoile Arzac?
Venez passer un dimanche avec nous, je crois qu'il y aura plein d'autres choses en plus à l'Ourou le dimanche. Venez.
Venez, tout simplement. On peut venir avec vous aussi.
Venez,
son vélo,
alors, si vous venez à vélo depuis l'Odève, c'est que vous êtes très courageux. Vous viendrez nous le dire et puis témoigner de votre trajet.
Oui, je suppose aussi qu'on pourra échanger aussi ses propres expériences de mobilité douce avec vous après le spectacle.
Oui, tout à fait. Oui.
On rappelle le nom du spectacle, donc Le Nez au Vent, qui porte bien son nom, récit d'une aventure sur bicyclette de la compagnie Bouillonnante. Un grand merci, Charlotte Tessier.
Merci, à bientôt. Bon vent.
Un jour, on a eu peur.
Il y avait trop de soleil depuis trop longtemps. Et les arbres étaient jaunes. Les fruits tout maigres.
Il faisait trop chaud.
On attendait. Et la pluie ne venait pas.
Les petits avaient faim et soif. Et la peur montait.
Avant, on vivait tous ensemble dans nos cabanes. Le monde est sans dessus-dessous maintenant. On ne sait plus rien du chaud, du froid, du dedans, du dehors, de l'endroit ou de l'envers. Le temps s'est figé. Il ne reste pas grand-chose d'avant. Mais nous sommes là, en chair et en os, et on vous donnera de belles lumières. Voici l'introduction énigmatique et mystérieuse de l'entresort immersif « On boira toute l'eau du ciel » du collectif La Méandre, qui se jouera les samedis 25 mai et dimanche 26 mai au pôle culturel Confluence à l'Odève le samedi et à l'Ourou le dimanche. Pour parler de ce spectacle fascinant, Anaïs Blanchard à la direction artistique mais également interprète et qui a créé les éléments visuels et de communication du spectacle. Bonjour Anaïs.
Bonjour Samuel.
On est face à un monde, on va dire, parallèle, peut-être apocalyptique, où l'eau aurait tout inondé soudainement.
Oui, tout à fait.
Donc c'est un entresort immersif. Alors entresort immersif, j'ai trouvé une définition sur Google. Un local où sont donnés en spectacle monstres, personnes ou animaux.
Alors oui, en fait, l'entresort à la toute base, c'est vraiment dans l'esthétique foraine, quoi. Enfin, avec les premières fêtes foraines et où c'était des cabanes ou des caravanes où on montrait une forme très très courte. Où du coup, ça s'appelle entresort parce que on rentre, on voit un truc et on ressort assez vite. Donc bon, là, c'est à peu près le cas. Le spectacle dure 15 minutes. Mais on ne fait pas que entrer et sortir, évidemment. Enfin, c'est tout un dispositif, du coup, immersif, comme son nom l'indique, où du coup, le spectateur est plutôt assis dans un premier temps et ensuite couché sur le dos. Voilà, et le spectacle va se passer au-dessus de lui.
Ah, d'accord. D'où ces photos, on voit des êtres, des insectes, des choses comme ça, parce qu'on est...
Du coup, on a séparé la caravane en deux. On a une vitre entre le public et nous, et du coup, on a tout un jeu de théâtre d'objets et d'ombres et lumières. Du coup, effectivement, c'est pas forcément un monde parallèle, c'est plutôt effectivement, c'est un truc un peu post-apocalyptique. En tout cas, il y a une montée des eaux. Et c'est les deux survivantes de cette montée des eaux qui racontent l'histoire de leur peuple, de leur monde. On ne sait pas trop, c'est assez énigmatique. On n'a pas donné de clé spatio-temporelle exprès.
Pour ce spectacle, vous emmenez avec vous en tournée cette caravane, donc, que je suppose que vous avez aménagé aussi de plein d'objets divers et variés, en effet, pour donner corps à cette histoire. Le sujet est particulièrement politique, en plus particulièrement sur un temps fort qui va traiter de l'eau. C'était aussi une manière, vous, une volonté première aussi de s'emparer des questionnements actuels, notamment du dérèglement climatique pour cette création.
Bah en tout cas, c'est assez étrange pour nous parce que le spectacle fête sa 10e année d'existence. Et c'est vrai que quand on l'a écrit il y a 10 ans, du coup l'auteur du texte, Guillaume Bréard, on lui avait demandé d'écrire une histoire autour de l'eau. Parce que c'est un élément qui nous parle, mais sans du tout être au fait du dérèglement climatique et tout des enjeux vraiment du moment, même s'il ne date pas du tout de maintenant et qu'il y a 10 ans, c'était déjà le cas. En tout cas, on était beaucoup moins dans l'actualité. Et là, plus le temps avance, et plus, forcément, on a fait un spectacle fictionnel qui commence à se rapprocher de la réalité. Et c'est pas exactement pareil de le jouer maintenant que de le jouer il y a 10 ans, c'est sûr. Donc du coup, oui, c'est devenu politique, mais c'était pas forcément le souhait de base. Nous, on voulait surtout jouer un truc de fiction, quoi.
Il y sera également de la question de la solitude et comment s'échapper de la solitude. Donc il y a un côté aussi métaphorique sur la symbolique de l'existence aussi.
Oui, totalement. Et puis aussi du deuil, quoi. Enfin, en tout cas, vu qu'on parle beaucoup du souvenir et de la perte, ça parle d'une disparition d'une population, donc forcément, et du point de vue des survivantes. Donc c'est sûr qu'on a essayé de parler de la solitude et de la perte, mais de façon douce, parce qu'on ne voulait pas plomber les gens en parlant de la mort, quoi. Mais en tout cas, comment on fait, qu'est-ce qu'on fait avec ces souvenirs, qu'est-ce qu'on fait de nos morts quand on est vivant, quoi. Voilà.
Ah oui, des termes assez lourds, assez engagés.
Ouais, ouais, on est bien deep.
Et il s'est mis à pleuvoir. Tant que la pluie tombait, on était heureux.
Mais elle ne s'est pas arrêtée.
Vous êtes accompagné aussi d'une autre actrice, donc Claire Théodoli, si je ne m'abuse.
Oui, tout à fait.
Donc sur cette histoire de deux sœurs, de sororité, quoi. C'était déjà, dès la base, vous aviez aussi envie que ce soit un duo sur cette forme.
Oui, c'est depuis le début, c'est un duo. Du coup, moi, je l'ai créé avec Anne-Chloé Jusso, qui a fait aussi la bande-son du spectacle. Pour le coup, on savait qu'on avait envie de parler de sororité et de faire ça, de faire une création féminine, quoi. Du coup, elle l'est toujours.
On peut aussi parler du collectif La Méandre qui regroupe une 20aine d'artistes pluridisciplinaires. Donc voilà, donc c'est un collectif collégial.
Oui, tout à fait, qui commence à dater hein, maintenant, parce que je crois qu'on en est à une plus de 15 ans d'existence à Chalon-sur-Saône. On est aussi dans les problématiques de l'eau parce que bah voilà, on vit sur la Saône, en tout cas près de la Saône, et on a un lieu sur l'ancienne zone portuaire de Chalon, qui est un lieu d'accueil, de résidence, de travail. Enfin, nos locaux sont là, quoi, et on accueille plein de gens aussi. Voilà, on est autogéré. Et puis, effectivement, on croise toutes les pratiques possibles. Il y a beaucoup d'échanges dans cet espace et dans le collectif. Il n'y a pas de chef, il n'y a pas de direction. C'est totalement collégial, effectivement.
Et là aussi, en étant aussi dans des espaces mobiles, en se confrontant à plein de terrains de jeux différents.
Oui, c'est sûr. Déjà, par la pluridisciplinarité, voilà, j'arrive plus à le dire, parce qu'on va de la musique à la danse, les arts de la rue, les grosses formes, les petites formes, le ciné-concert, et plus, 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 trois petits points. Mais c'est sûr que oui, on aime bien occuper tous les terrains. Enfin, on s'est dit, en trouvant le nom de la méandre, on imaginait un peu un monstre marin avec des tentacules qui s'étend, mais avec douceur et bienveillance, hein, bien sûr, mais en tout cas qui étend ses tentacules un peu partout.
Là, vous allez jouer donc le spectacle le samedi et le dimanche. Il y aura quatre représentations par heure. Comment ça se passe pour venir dans votre caravane? Est-ce que le groupe attend dehors? Est-ce que comment?
Alors oui, en fait, on a créé un petit espace introductif au spectacle qui se passe à l'extérieur de la caravane. Du coup, les quatre personnes qui arrivent, alors on a un système de réservation où du coup,
D'accord,
on
ok.
peut noter notre nom dans les créneaux qui sont disponibles la journée. Et ensuite, on arrive un petit peu en avance, on fait ce parcours à quatre introductif au spectacle qui permet un peu de souder le groupe parce que c'est pas forcément quatre personnes qui se connaissent. Et ensuite, on enlève ses chaussures et on rentre dans la cabane forêt sous l'eau, tout ça. Je vais pas trop spoiler non plus.
Non, gardons justement du mystère. Et voilà, et donc c'est pour tous, hein. C'est à partir de 6 ans, j'ai vu.
Oui, alors on a mis à partir de 6 ans. Après, c'est vraiment en fonction des sensibilités des enfants et on a déjà eu des beaucoup plus petits, on a eu des bébés, des enfants aussi de plus de 6 ans qui ont un peu peur des fois d'être dans un espace clos, mais en tout cas c'est tout public, c'est complètement tout public.
Voilà, ce sera également gratuit, donc vous venez nombreux, pensez à réserver pour nos auditrices et auditeurs. Est-ce que vous avez d'autres spectacles prévus ensuite dans l'Hérault ou proche Hérault?
Eh ben non, en fait, après, on va rentrer. Hein. On a pas mal de dates en Bourgogne,
Ok.
d'où on est originaire, mais c'est vrai que non, dans l'Hérault, malheureusement, on va pas souvent jouer dans le sud. On passe rarement la petite frontière entre le nord et le sud, quoi. Mais du coup, ça fait plaisir.
Bah oui, on espère hein, qu'il y aura aussi des gens qui vont voir le spectacle et que ça donnera aussi envie d'avoir cette forme-là sur plusieurs festivals. Voilà, parce que c'est toujours agréable d'être dans cet entresort justement immersif, intime. C'est toujours des formes très très appréciables en tout cas en termes de théâtre de rue ou etc.
Oui, c'est sûr que c'était vraiment des univers où on ressort pas indemne.
On rappelle donc le nom du spectacle, On boira toute l'eau du ciel du collectif La Méandre. Et un grand merci Anaïs Blanchard d'avoir
Avec
répondu à
plaisir.
notre appel et joyeux anniversaire aussi également.
Merci.
Depuis quelques années, les marées vertes persistent de plus en plus longtemps sur les côtes bretonnes. Certaines plages sont maintenant fermées pendant plus de 6 mois. Si Pierre-Philippe n'avait pas été urgentiste à l'hôpital de Lannion, saurait-on que les marées vertes ont tué des êtres humains? Probablement pas.
Un scandale nauséabond qui imprègne nos sols, nos rivières et nos plages, nos assiettes et nos champs, nos villages et nos villes, nos familles, nos paysans et nos ouvriers, notre classe laborieuse, notre démocratie, nos vies. Trois ou quatre générations d'idéologie hégémonique, par la force du pouvoir corrompu, déversés dans les journaux, les radios, les télévisions, les manuels scolaires et les histoires du dimanche. Un saccage des morts. Le courage d'une véritable lanceuse d'alerte, journaliste d'investigation, la justesse d'un illustrateur. L'ouvrage Algues vertes, l'histoire interdite d'Agnès Leroux et Pierre Van Hoff est une bande dessinée documentaire au succès mérité. Une enquête effarante et nécessaire qui rencontre l'emprise productiviste jusqu'au boutiste des politiciens et des puissances économiques. Sa lecture produit colère et effroi, elle résonne et nous voulons la porter sur scène. Ce nous qui parle, c'est le groupe Brestois Noise Rock Mnemotechnique qui, pour partager leur effroi et leur colère, ont choisi d'adapter cette BD en musique, le temps d'un concert immersif où nos dents vont grincer autant que les cordes électriques. Et ça se passera au cinéma Luteva de Lodève le vendredi 24 mai. Pour en parler, Arnaud Kermarek Tortorici à la guitare, chant, graphisme et à la réalisation vidéo sur le spectacle. Bonjour Arnaud.
Bonjour Samuel.
Alors on le sent bien, une lecture qui vous a donc causé colère et effroi. Comment est parti ce projet de justement de porter cette bombe médiatique, on va dire, en musique ?
C'était l'envie d'amener plus d'engagement dans notre pratique artistique, qu'il y ait un message clair dans ce que l'on fait dans notre musique qui est du rock. Hein. Clairement, on est un groupe de rock qui a plus de 10 ans d'existence et 3 albums aussi derrière nous. Là, l'envie, c'était de saisir un dossier qui nous touchait vraiment directement, notamment en tant que Breton, mais aussi un dossier qui révèle un problème d'ampleur beaucoup plus large qui touche le modèle agroalimentaire français et même, on va dire, l'agro-industrie au niveau mondial aussi. Donc l'envie, c'était d'avoir un spectacle qui soit enrichi, c'est-à-dire qui ne soit pas que de la musique. Et la formule concert BD concert qu'on avait déjà pu voir sur certains spectacles nous paraissait vraiment pertinente, d'avoir un spectacle qui puisse jouer dans différents lieux, dans des cinémas. C'est un spectacle qui joue aussi dans les médiathèques, qui joue dans tout type de festivals, sur tout type de scènes. Et ça, c'était à la fois donc nous ouvrir des opportunités pour jouer et toucher à des nouvelles formes artistiques, hein, en y mettant du graphisme, du dessin, de l'animation vidéo. Et cette matière sonore aussi de l'enquête radio, puisque Algues vertes, histoire interdite a démarré par une enquête radio. Toute cette matière-là nous a donné envie de mettre le spectacle en scène à ce moment-là.
D'ailleurs, vous avez pu rencontrer aussi Inès Leroux, qui est complice aussi de cette création. Vous avez aussi enregistré des paroles, enfin des témoignages d'elle aussi directement, quoi.
On a commencé bien sûr par la contacter. Elle a été assez surprise au départ et puis elle nous a tout de suite donné le feu vert, hein, pour le faire, en nous laissant une liberté totale dans la manière d'adapter cette bande dessinée. Au moment de la création, comme on a multiplié les outils, les ressources sonores, on voulait aussi de la parole et il nous a paru évident de la solliciter. Donc on lui a demandé si elle voulait bien lire et enregistrer quelques extraits de la bande dessinée. Elle nous a fait des enregistrements qu'on intègre au spectacle.
D'ailleurs, pour ceux qui seraient intéressés par cette fameuse enquête radiophonique dont vous parliez, ça s'appelle « Journal Breton ». Inès Leroux, à la base, elle s'intéressait à la question de la santé des agriculteurs et des ouvriers agricoles exposés aux pesticides parce que sa mère elle-même est devenue chimico-sensible du fait de la contamination des sols, etc. Et au fur et à mesure de son enquête, elle a voulu comprendre comment la connaissance scientifique est influencée par tout un système agro-chimico-industriel particulièrement proactif.
Le volet Algues vertes n'est qu'une partie de ce documentaire, le journal breton. Donc c'est une enquête radiophonique qui est disponible en podcast. Hein. C'était diffusé dans l'émission Les Pieds sur Terre sur France Culture. Donc on peut très facilement retrouver le journal breton, que je recommande chaudement parce qu'il y a une enquête en profondeur sur le territoire breton où elle s'est installée. C'est une photographie, une enquête de la vie dans le milieu rural et comment est-ce que les choses se passent. Et comment est-ce que la vie, que ce soit des cafés, des fermes, petites fermes, grandes fermes, comment est-ce que les choses changent, comment est-ce que les commerces changent avec ce mastodonte-là de l'agro-industrie qui pèse sur la Bretagne, comment est-ce que ça refaçonne à la fois le monde, donc la société, la vie des gens et aussi tout simplement le paysage. Voilà, cette enquête-là s'est arrêtée un moment sur le sujet des Algues vertes, qui était, à vrai dire, on s'en est bien rendu compte, un tabou en Bretagne. quelque chose qui existe depuis les années 80, enfin des années 70, ce phénomène sur les côtes bretonnes, qui a toujours été un petit peu mis de côté, non résolu, ou avec des rustines, on va dire, des fausses solutions.
Justement, il y avait aussi cette envie d'aller à la rencontre des habitants, d'exposer justement ce problème de manière artistique aussi.
On considère que la parole de l'artiste a un poids et que se contenter de ce qu'il y a souvent en musique, en tout cas on le constate, c'est-à-dire du divertissement. C'est quand même la plupart du temps des concerts assez innocents, très important de se divertir, de danser, de s'amuser. Mais il y a quand même une signature artistique et une force dans la pratique artistique qui ne peut pas complètement se dégager d'un rôle politique. Et on a décidé, nous, de prendre à bras-le-corps ce rôle politique. Mettre sur scène ce spectacle, c'était, en tant qu'artiste, se positionner politiquement et transmettre un message et, en tout cas, poser des questions. Et voilà, on voulait amener ces sujets-là aussi dans les salles de concert et dans les salles de spectacle.
Et aussi, elle dit, Inès Leroux, qu'il y a un vrai noyautage des intentions publiques par l'agro-industrie, hein, dont on trouve des relais à toutes les échelles de la démocratie locale, dans les zones rurales, au sein des conseils municipaux, des communautés de communes et des syndicats des eaux même. Et c'est vrai qu'on se rend compte qu'il y a tout un système, des fois mafieux presque, qui peut s'installer dans nos milieux ruraux sans même qu'on s'en rende compte, quoi.
Cette bande dessinée là, c'est vraiment un pavé dans la mare en fait. Cette enquête, en tout cas de manière générale, va mettre à jour un système qui est d'une ampleur dingue, puisque on peut dire à peu près hein, qu'un Breton sur trois travaille directement ou indirectement pour l'agro-industrie, hein, que ce soit dans le milieu agricole, mais que ce soit aussi dans l'agroalimentaire, dans la préparation des plats, dans l'alimentation des bêtes, dans le transport, dans l'administration, les banques, les crédits agricoles, etc. Il y a un poids énorme de l'agriculture en Bretagne. Les conséquences de ça sur les travailleurs et travailleuses, sur le paysage, sur l'environnement, la qualité des sols, la qualité des eaux et la qualité de l'air, on n'en parle jamais des conséquences. On sait bien pourtant que c'est un impact énorme. On sait qu'il n'y a plus un ruisseau potable en Bretagne et ça, il faut le taire. Donc cette enquête-là, c'est vraiment le travail de lanceuse et de lanceur d'alerte. Il y a d'autres journalistes qui se sont associés avec Inès Leroux pour créer un média en ligne qui s'appelle Splan, Splan, splan2n.org, qui est bilingue, qui est français et breton. Et on a une continuité un peu d'enquête sur ce site-là. Et on continue à faire, comme on l'a fait dans la bande dessinée, des découvertes assez folles sur ces réseaux-là de pouvoir qui sont instaurés. Il y a, par exemple, une enquête en ligne sur ce média-là qui nous parle d'une ferme-usine en Bretagne. On se rend compte que le propriétaire de cette ferme-usine, c'est le fils du maire ou de l'ancien maire, qui a des réseaux dans toutes les instances décisionnaires et qui, grâce à tous ces réseaux-là, réussit à avoir des autorisations d'agrandissement pour que cette ferme-usine devienne encore plus usine, etc. Et ces enquêtes-là sont détaillées. Ça touche des questions essentielles. Ça concerne notre environnement, nos sols, notre air. Finalement, la question qui est soulevée, c'est la question de la démocratie. Pourquoi est-ce qu'on n'est pas informé de ces choses-là? Pourquoi est-ce qu'on n'a pas de droit de regard là-dessus? Et comment est-ce que les réseaux de pouvoir sont cooptés pour le profit d'industriels simplement, quoi? Donc ces enquêtes-là sont des révélations coup de poing et c'est ce qu'on a ressenti aussi à la lecture de la bande dessinée.
Votre création est aussi accompagnée quelquefois d'une conférence gesticulée de la fourche à la fourchette, non l'inverse, où Mathieu Dalmet nous parle de la sécurité sociale de l'alimentation.
Oui, alors en fait, on essaie justement de ne pas en rester là après ce spectacle-là, après la découverte pour certains ou la redécouverte de la BD sur scène. Eh bien, on essaie de poursuivre, et ce sera le cas aussi à l'ODEV, hein, il y aura un débat après. On essaie d'avoir des discussions avec le public et de revenir sur le sujet, de discuter. Et on propose aux organisateurs, aux organisatrices, par exemple, cette conférence gesticulée. Mathieu Dalmet nous a accompagnés sur certains concerts, mais il y a d'autres intervenants qui viennent souvent autour du sujet de l'agriculture, de l'alimentation, mais aussi du journalisme, etc. Et en concernant la proposition de la sécurité sociale de l'alimentation, c'était pour nous une réponse alternative à un modèle qu'on nous dit unique, finalement. Il n'y a pas d'alternative, hein, c'est le discours qu'on a. C'est comme ça qu'on doit produire de l'alimentation. C'est le modèle industriel et intensif qui est la bonne solution. Or non, il y a vraiment d'autres propositions. Et ces propositions, elles peuvent être très fortes par leur ampleur. Et pour résumer, c'est vraiment un résumé parce qu'il y a beaucoup de collectifs qui militent pour cette sécurité sociale de l'alimentation et ils en parleront certainement mieux. Mais dans les grandes lignes, c'est comment est-ce qu'on va créer une nouvelle branche à la sécurité sociale qui concernerait non plus la santé, mais l'alimentation. C'est-à-dire que sur notre carte vitale, qu'on est tous un crédit mensuel, je crois qu'il avait été évalué à 150 euros, il me semble, individuellement, hein, pour aller faire nos achats d'alimentaire auprès de producteurs conventionnés. C'est-à-dire que comme les médecins, les producteurs seraient conventionnés avec certains critères qui seraient, eux, débattus collectivement avec les habitants. Il pourrait y avoir des décisions de comment est-ce qu'on conventionne un producteur, un restaurateur, pour pouvoir y aller et utiliser sa carte vitale pour s'alimenter. Voilà, d'une manière universelle aussi. Ça s'inspirait de quelque chose qui est existant et qui, au niveau de la santé, qui a un impact énorme hein, sur notre vie. Finalement, on peut tous être, même si c'est combattu hein, par le modèle libéral en place, on peut tous être soignés gratuitement en France, en principe. Donc l'idée, c'est de mettre aussi l'alimentaire. Ça apporterait une garantie de revenus auprès des producteurs, des agricultrices, des agriculteurs. Et puis ça aussi, ça amènerait plus d'équité dans notre rapport à l'alimentation, notamment l'alimentation de qualité. C'est toute une réflexion politique extrêmement intéressante, extrêmement puissante que cette proposition de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc on en débat très régulièrement après le BD Concert à Algues Vertes. Ouais.
Il y a l'aspect politique du spectacle, mais bien sûr il y a aussi l'aspect musical. Vous êtes des vrais amoureux de la musique. Hein. Je conseille aussi aux gens d'aller écouter vos sons, hein, vos albums de mnémotechnique. Et il y a aussi il y a un côté très expérimental aussi dans votre musique, on pourrait dire.
Oui, c'est une base de rock, qu'on dit parfois rock noisy, parce qu'il y a un côté un peu de recherche sonore. On va triturer les sons, on va toujours faire de la recherche de sons. C'est quelque chose qu'on a toujours fait dans nos disques. Il y a toujours une base mélodique, parce qu'on veut quand même accrocher le spectateur. On aime tous la pop et ça reste. Mais à la manière de, je sais pas moi... Sonic Youth, même Nirvana, etc., dans les années 90, on va amener quand même un son fort. Et ça, c'est quelque chose qu'on garde aussi dans ce spectacle, Algues Vertes. Si on faisait très très fortement en trio avant, quand on faisait un simple concert, là on est à 4 sur scène, il y a des synthés qui sont venus aussi amener des couleurs sonores différentes. Donc on s'adapte à un récit, hein. Il y a de la place pour l'image, il y a de la place pour la lecture, il y a de la place pour l'écoute. C'est une évolution de notre musique. On a aéré clairement. Il va y avoir aussi toujours des moments d'intensité forte avec des sons distordus, avec une batterie vraiment massive et bien marquée. Enfin, voilà, ça c'est une marque musicale qu'on garde, oui, le rock, clairement.
Franchement, j'adore votre musique et en plus de l'accompagner, d'avoir su trouver ce mélange, ce rythme pour tout allier, cette envie musicale et cette envie aussi politique, c'est très fort. On rappelle donc, c'est le concert BD Algues Vertes, vous l'avez compris, un sujet universel, hein, le festival s'appelle Histoire d'eau, on le dévoile à la ZAC, mais c'est l'occasion aussi de se rendre compte de tout ce qui se passe en France en général et de faire converger nos luttes, peu importe le territoire où on se situe. Et ce sera donc le vendredi 24 mai au cinéma Luteva de l'ODEF pour des tarifs de 10 à 6 euros. Alors ce serait dommage de s'en priver. Concert qui sera donc suivi d'une discussion. Et on mettra tous les liens sur notre site rphfm.org. Un grand merci Arnaud Kermarek-Tortorici.
Merci Samuel pour cet entretien.
Et je suis maintenant au téléphone avec Olivier Hébrard, docteur en sciences de l'eau agréo-écologiste, qui donnera une conférence dans le cadre du Temps fort Histoire d'eau en Lot-et-Voisin-Arzac le dimanche 26 mai à 15h30, conférence qui se nomme « Comment semer la pluie ?», donc une conférence sur les questions liées à la gestion de l'eau sur notre territoire. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Comment semer la pluie ? Un titre évocateur et assez poétique en même temps.
Eh ben, semer la pluie, effectivement, c'est le côté de faire passer de manière un peu plus poétique, douce et quelque chose qui est un sujet quand même un peu complexe et aujourd'hui un peu sujet à tension. Donc semer la pluie, c'est en gros comment toute cette pluie qui tombe encore sur le Lot-et-Voisin-Arzac globalement en abondance, comment on met tout en œuvre pour optimiser sa rétention dans les sols de telle manière qu'elle va pouvoir après bénéficier à la fois mieux à la végétation, aux cultures, au sous-sol, à l'étiage des cours d'eau, et également mieux, entre guillemets, climatiser l'atmosphère, c'est-à-dire pouvoir faire baisser la température à une échelle assez conséquente. Voilà.
En ce moment, c'est vrai que la question de l'eau est sur toutes les bouches. On a organisé pas mal de débats qui suscitent des vives réactions, en tout cas de toutes parts. Comment toi tu réagis face à toutes ces questions de l'eau qui sont sur toutes les bouches en ce moment ?
Eh ben, c'est bien qu'en fait on s'en intéresse, mais bon, il aurait fallu un petit peu s'en intéresser avant, prendre la mesure des choses bien plus tôt. Et on a bâti aujourd'hui dans l'Hérault, dans une bonne partie de la France et même de l'autre côté de la Méditerranée ou ailleurs dans le monde, on a bâti des sociétés sur l'abondance, l'eau en abondance. Aujourd'hui, elle arrive au robinet, on se pose pas de questions. Et du coup, le problème, c'est que ça rejaillit sur beaucoup d'autres choses. Là, je pense, ce qui me vient à l'esprit, c'est là, je rentre du Maroc, où je vais régulièrement là pour des projets. Et voilà, du moment que l'eau arrive au robinet, c'est vrai qu'à côté, on se pose pas la question dans les oasis, par exemple, s'il y a de l'eau ou pas. Et du coup, toutes les pratiques dégénèrent. Donc, sauf qu'aujourd'hui, on arrive, la ressource est souvent limitée. On a tout fait pour que, à la fois de dégrader les milieux, c'est-à-dire de ne pas la retenir, et à la fois les changements climatiques qui là s'accélèrent. Donc le combo des deux, changement des milieux et accélération des changements climatiques, fait que maintenant on est à la limite de cette gestion de l'eau. Et donc ça fait un débat qui va être brûlant, parce que certains ne veulent pas changer de position, de pratique, de mode de vie, alors qu'on ne va pas avoir le choix.
Repenser totalement sa consommation.
C'est pas forcément de la contrainte, c'est juste que là on est sur des choses où on fait pas attention. Moi je prends l'exemple des toilettes, c'est juste pour un peu volontairement, c'est un peu provoque, mais faire ses besoins dans de l'eau potable, pour moi c'est une aberration absolue, et un jour ça ne sera plus possible, sachant qu'on peut, alors je dis pas d'aller jusqu'aux toilettes sèches pour les gens qui habitent en ville, mais déjà tous les gens qui habitent à la campagne, de passer un système de toilettes sèches, ça permettrait déjà d'économiser énormément d'eau. Voilà, donc c'est ce type de choses là où aujourd'hui il faut basculer, se dire que c'est vraiment quelque chose de précieux, et à un moment il faut vraiment se poser les questions. On peut plus gaspiller à tout va de l'eau de surcroît qui a été potabilisée, qu'il faut retraiter derrière, etc.
On est sur un territoire aussi extrêmement viticole dans l'Hérault, et là aussi il y aurait des choses à changer sur le système viticole en général.
Ah ben clairement. Alors après, moi je prône pour moi il faudrait des assises de la viticulture. C'est-à-dire que la réponse, techniquement là la réponse, on sait faire du très bon vin avec pas d'eau ou vraiment un minimum d'eau, mais la réponse doit être au dessus. Il faut que ce soit une réponse. Le sujet il peut pas être que technique pour accompagner la profession dans cette évolution. Donc ces assises, il faudrait voir comment on accompagne l'évolution des pratiques, comment à la fois viticole et œnologique, les pratiques de changement de culture, les changements vers d'autres cultures plus nourricières, comment on accompagne tout ça en subventionnant notamment pour pas qu'il y ait de perte de revenus par exemple. Voilà, mais il faut reposer les choses à une échelle plus locale, et tant qu'on fera pas ça, ça va cafouiller, parce que des personnes ont des visions globales, mais ça cafouille trop dans tous les sens, chacun veut tirer de son côté et ça marchera pas tant qu'on prendra pas de la hauteur, à mon avis.
Prendre du recul, de la hauteur aussi, ouais. On peut viser aussi par exemple les agriculteurs qui sont, comme vous disiez, sur des articles, qui sont piégés également par le modèle économique, quoi.
Voilà, ils sont souvent piégés par un modèle économique et pour en sortir, c'est pas évident. Voilà, qu'on est dans certaines caves coopératives ou autres où on est pris au coup, on n'a pas le choix de produire, de faire du volume, d'amener la cave. On a manque de temps parce qu'on a d'autres cultures, on a d'autres activités à côté ou je ne sais quoi. Enfin voilà, il y a 10 000 raisons valables. Alors que voilà, d'accompagner pour sortir, pour retrouver, vendre un vin avec une identité, mieux valoriser et changer de pratique aujourd'hui, en tout cas techniquement, pour mieux gérer le sol, mieux gérer le côté physiologique de la vigne, mieux gérer à la fois le mode de conduite, mieux gérer l'environnement de la parcelle, on sait faire et les leviers sont nombreux sur la vigne puisque c'est une plante, il faut le rappeler, qui est quand même relativement bien adaptée à la sécheresse. Alors ça, ça allait jusqu'aux conditions qu'il y a dans les PO où là on a dépassé les conditions, on va dire, limites de ce que peut supporter la vigne. Mais si on reste à les conditions en tout cas de la plupart des secteurs de l'Hérault, les leviers ils sont là et il n'y a pas de souci. On a plein de leviers en tout cas sur la vigne.
Et il faudrait quand même, on a pu lire aussi qu'il faudrait passer par une véritable révolution paysanne pour que les choses changent.
Ben, peut-être, voilà, c'est ce que je dis, enfin, pour des états généraux, alors ça peut être une révolution paysanne ou autre. En tout cas, à un moment, voilà, le système de produire, d'utiliser, d'irriguer, d'utiliser de l'eau pour irriguer, pour distiller derrière, faire du volume, ce n'est plus, ça ne peut plus marcher et ça ne marchera pas durablement. Donc il faut accompagner que tout ce système viticole qui est basé là-dessus puisse faire sa transition rapidement, puisque là on voit que le changement climatique s'accélère très fortement ces dernières années et ne va pas faire en s'arrêtant. Donc voilà, il faut accompagner ça, sans pour autant, voilà, je ne suis pas après anti-irrigation, l'irrigation sur des plantiers, sur des jeunes vignes, pour remplacer un orage estival il y avait toujours, la plupart des années, il y avait un orage qui arrivait au bon moment l'été par rapport à la maturation. Et c'était bénéfique. Aujourd'hui, souvent, ces orages-là ne sont plus présents. Donc voilà, dans certaines situations qui mettent en péril l'économie de viticulteurs, je suis complètement favorable à mettre un petit coup d'eau. Mais ensuite, toute irrigation, non, c'est une aberration absolue. Et à un moment, il va falloir faire des choix. Il va faire le choix, d'autant que toute irrigation est souvent basée sur du goutte à goutte, qui est une plaie pour la vigne, puisque ça fait tout. En fait, d'une part, ça favorise vraiment très fortement l'enracinement superficiel. Et d'autre part, ça déconnecte la vigne du terroir. En fait, aujourd'hui, on fait malheureusement de moins en moins de vins de terroir. On fait des vins qui sont travaillés à la cave, mais qui sont pas travaillés en phase avec le terroir.
Donc on oublie aussi tout ce qui est méga bassine, etc.
Ah oui, non, mais ça, c'est même pas la peine d'en parler. Enfin voilà, ça me fait complètement rire. Enfin là, c'est une autre planète. Hein. C'est du même ordre que faire un golf dans le désert, quoi. Voilà, j'ai même pas envie là. Par contre, je suis pas anti-retenue, des petites retenues culinaires bien adaptées pour plusieurs vignerons, en phase avec le milieu, la topographie, etc. Tout à fait. Mais les méga bassines, voilà, c'est des golfs dans le désert, c'est pareil.
Comment semer la pluie, c'est une conférence assez impressionnante. D'ailleurs, pour les auditrices et auditeurs qui seraient intéressés, il y a une conférence qui avait été enregistrée via Robert Martin, qui est toujours disponible sur le site internet RPHFM. Et voilà, où on te voit en effet pendant une heure débattre, parler de la question de deux choses et brasser énormément de sujets avec un débat aussi avec les gens. Quelles sont les questions qui reviennent le plus souvent parmi justement le dialogue que tu as avec les gens dans cette conférence?
C'est souvent la vigne. C'est souvent la vigne. Alors, il se trouve que je connais bien la vigne. J'ai grandi sur une ferme où il y avait de la vigne. J'ai travaillé la vigne toute mon enfance. J'ai fait mon doctorat sur un bassin versant viticole. J'accompagne des projets où il y a de la viticulture. J'ai bossé à l'Institut français de la vigne du vin. Donc voilà, c'est un milieu que je connais bien. Du coup, je suis assez à l'aise là-dessus. Donc ça me va. Mais voilà, après, je travaille sur toutes les filières. J'ai la chance de pouvoir travailler, que ce soit sur le maraîchage, de l'élevage, de tout. Mais les questions viennent souvent, malheureusement, sur la vigne, parce que là, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas cet acharnement, tout ce qui se passe sur le territoire. Et c'est vrai que ça paraît, s'il n'y a pas ces fameuses assises, ça va être compliqué, parce que chaque côté est sur ses positions, et que je comprends. Chacun veut défendre son steak. Mais en tout cas, sur le plan technique et physique, enfin, on va dire biologique, etc., à un moment, l'eau, la ressource n'est pas infinie et il va falloir faire un choix entre manger ou distiller du raisin.
Aïe, 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 aïe. Tu as également aussi écrit des articles pour Le Monde, notamment un écrit en janvier 2023 pour faire face aux sécheresses. Il faut avant tout revoir les usages de l'eau et repenser les systèmes agricoles. Et un autre que tu m'avais envoyé qui dit que aussi les collectivités de l'État doivent cesser de soutenir un modèle viticole obsolète sur la gestion de l'eau.
Oui, bah c'est tout est dit. En fait, pour moi, les collectivités, elles doivent soutenir la transition, surtout quand il y a des fonds très conséquents qui sont mis en place. Ces fonds-là, ils doivent être dédiés à la transition viticole, que ce soit pour changement, rester dans la viticulture pour passer, changer sur un système plus agroécologique, plus résilient, ou une transition sur un système de culture, hein, passer à d'autres cultures aujourd'hui qui sont porteuses de revenus. Et l'idée, voilà, avec les montants qui peuvent être alloués qu'ont certaines collectivités, bah, l'idée c'est de mettre cet argent pour qu'il n'y ait pas de perte de revenus, du moins les premières années pour les vignerons qui s'engageraient, les viticulteurs ou vignerons qui s'engageraient à faire cette transition. Donc pour moi l'argent il y est, après voilà, c'est juste une histoire de volonté et si on veut vraiment sûr. Mais de toute manière, à un moment ou l'autre, ça se fera de force, donc autant le faire en douceur et d'anticiper en amont.
Et au niveau de la région, des communautés de communes, est-ce que tu sens qu'il y a aussi des évolutions à ce niveau-là sur la question de l'eau?
Ben, il y a de tout. On trouve de tout. Vraiment, on trouve de tout. Je citerai, hier, j'étais à la métropole, voilà, où il y a des très très bonnes choses qui se passent sur ces sujets-là, voilà, sur en termes de projets agroécologiques, d'hydrologie régénérative, comment on va tout faire pour mieux capter, enfin, c'est dans la même idée que semer la pluie, hein. Comment on va construire, on met en place des projets agroécologiques nourriciers pour le territoire, tout en retenant l'eau, en favorisant son infiltration, et donc qu'elle soit au bénéfice des cultures, du sous-sol, des nappes, des microclimats, voilà. Donc je vais citer plutôt, on va dire, les bons élèves, donc en l'occurrence la métropole, voilà, qui part sur des projets très chouettes pour essayer de faire des projets pilotes qui pourraient inspirer d'autres choses. Donc il y a de tout, il y a la commune d'Olmette et Villequin aussi à citer, qui part sur un gros projet d'hydrologie régénérative sur tout l'amont de la commune, tout les parties hautes, voilà, et l'idée c'est pareil, c'est de l'eau qui part en trop et qui dévale, et qui ne recharge pas les sources. L'été dernier, il y a des sources qui ont quasiment tari. Bah, l'idée c'est de tout mettre en place pour régénérer ces sources, mais dans quelque chose qui va être plurifonctionnel, c'est-à-dire qu'on va faire des aménagements assez conséquents, notamment chez Nicolas Malin, là, qui est éleveur sur les hauteurs dans le Mattey-Vilquin, où l'idée c'est de faire des baissières, donc c'est une sorte de fossé le long des courbes de niveau, où quand il y a de grosses pluies, comme on a eu ces jours-ci, l'eau elle est bloquée, elle va mettre plus de temps à s'infiltrer, elle va catalyser la régénération des sols, et associé à ces baissières, on peut planter des arbres, enfin semer des arbres fruitiers par exemple. Et donc ça peut avoir l'effet de ces baissières, elle va avoir une triple fonction. Déjà, elle va permettre de rendre plus résilientes les sources qui sont en aval pour des populations qui tirent dessus. Le deuxième point, c'est que du coup Nicolas va pouvoir produire des fruitiers dessus, il pourra mettre les fruitiers qu'il veut avec possiblement sans irrigation. On arrive à faire des fruitiers sur ce modèle-là, moi, sur des projets là au sud du Maroc sans eau. Et le troisième facteur, c'est qu'il va pouvoir augmenter sa quantité de fourrage. Donc voilà, et ça c'est vraiment avec l'aide, avec l'impulsion de la mairie de d'Olmette et Vilquin, que je félicite aussi également pour son élan et sa motivation, et qui j'espère fera tache d'huile à l'échelle de la communauté de communes et au-delà. Voilà. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère citer les bons élèves.
Oui,
Et après, il y a des très mauvais élèves qu'on connaît, mais voilà, il y a qu'à lire entre les lignes dans la Tribune du Monde, et voilà, les bons élèves, ils sont vite vus.
peut-être aussi, avant de terminer, on avait senti que les habitants étaient très sensibles, encore une fois, à la question de l'eau, et que des fois, ils pouvaient se méfier aussi d'une certaine approche scientifique, avec beaucoup de scientifiques qui essayaient au contraire d'aller dans le sens de cette aide. Comment tu sens, toi aussi, des fois cette méfiance vis-à-vis des approches scientifiques, vis-à-vis de chercheurs, etc., sur les territoires?
Ben, je la comprends, parce qu'il y a de tout, en fait. Il y a à la fois il va y avoir des scientifiques qui vont appuyer les bassines ou autres, enfin, ou en tout cas qui vont pas se positionner, qui vont être un peu fuyants, et d'autres qui vont proposer des choses intéressantes. Du coup, c'est vrai que des fois, la personne lambda peut être vite noyée dans les approches, dans les contre. Voilà, je prends par exemple le sujet des OGM. Hein, il y a toute une communauté qui est pour, une communauté qui est contre. C'est un peu pareil pour l'eau, et du coup, enfin, pour certains sujets. Et du coup, c'est vrai que ça, pour les personnes qui n'ont pas forcément tous les éléments critiques et pour prendre du recul, ça peut paraître un peu des fois compliqué. Donc, je peux comprendre. En tout cas, aujourd'hui, le constat, moi qui viens de ce milieu et qui le fréquente pas mal, c'est que ça bouge beaucoup et dans le bon sens. C'est-à-dire que voilà, ces questions d'hydrologie régénérative ou d'hydro-agroécologie, qui sont nouvelle. On est une poignée à porter depuis, on va dire, 10-15 ans au niveau français, mais que ça y est, ça prend le comment dire, c'est en train de se développer et la recherche est en train de s'en emparer, ce qui est tout nouveau. Voilà, donc ça, c'est chouette. Avant, on traitait plutôt de comprendre les processus hydrologiques, hydrogéologiques, climatiques, etc. Aujourd'hui, on commence à se pencher sur comment on peut régénérer des milieux avec des petites subtilités au niveau de la gestion des pratiques agroécologiques, de certains aménagements hydro-agroécologiques, etc. Donc non, ça bouge beaucoup. Ouais.
Ça fait plaisir à entendre. Est-ce que tu aurais un livre à conseiller à nos auditrices, auditeurs?
Malheureusement, non, il n'y a pas encore d'ouvrage localement. Alors ça n'a un peu rien à voir, mais localement, c'est un livre, j'ai pas le titre en tête, mais c'est de André Fage, je crois, la quête de l'eau ou la conquête de l'eau du néolithique à nos jours. Alors c'est un livre qui est quasiment introuvable, où il a fait un recueil de toute la manière dont les gens, dans l'ancien temps, collectaient, récupéraient, géraient l'eau sur le Larzac et sur les Causses, sur les Grands Causses. Et cet ouvrage, moi, ça fait, ouais, je l'ai acheté peu après sa sortie, je crois que c'était il y a 20 ans, quelque chose comme ça. Ouais, il est génial parce qu'on voit, et puis il introduit par rapport, voilà, il y a un témoignage, une dame qui dit, ben voilà, aujourd'hui, on tire la chasse d'eau là, dans l'indifférence la plus totale, et moi, les 10 ou 12 litres d'une chasse d'eau, ben, je faisais une heure de marche aller-retour chaque jour pour aller chercher cette eau-là, quoi. Voilà, et ça permet de relativiser les choses et se dire que, voilà, qu'on a de gros efforts à faire.
Des efforts, eh bien, on espère qu'on va redoubler d'efforts sur notre territoire pour éviter des catastrophes qui vont venir de toute façon, quoi qu'il arrive, en effet. Et on espère qu'on va gérer au mieux, quoi.
Ben, en fait, pour préciser, alors c'est pas tant la pluviométrie est à craindre, parce qu'on voit que sur le territoire, bon, il y a une grande variabilité en fonction des secteurs, des zones où il y a beaucoup de pluie, des zones où il y en a beaucoup moins. Alors sur Soumont, là, sur les 30 dernières années, on est à peu près 950 mm de moyenne sur la station Météo France de Soumont. Mais le gros problème, c'est le côté atmosphérique qui va être très compliqué, et notamment à la fois l'augmentation des températures. Juste, sans vouloir être alarmiste, mais par exemple, sur les 30 dernières années, les températures moyennes maximales sur juin, juillet et août ont pris plus de 3 degrés. Voilà, en moyenne. Et on a une explosion du nombre de jours qui dépasse les 30 degrés et 35 degrés. Et tout ça, ça a une grosse incidence sur la végétation, et c'est ça qui est fortement à craindre. Et il y a également aussi l'humidité de l'atmosphère, la baisse de l'humidité atmosphérique. Et le mélange des deux fait que ça peut être très... c'est ça qui va être le plus violent pour la végétation. Et c'est exactement ce qui se passe au-dessus de l'Odève, par exemple, avec les chênes verts qui sont devenus tout marrons, qui ont eu des problèmes de cavitation et d'embolie des végétaux. En fait, là, il y a un problème de passage de bulles d'air dans la sève qui fait que beaucoup de végétaux, de branches, de feuilles sont mortes, voire des arbres entiers. Donc du coup, il faut s'y mettre, il faut végétaliser, il faut hydrater le paysage, il faut transformer les paysages en éponge. C'est vraiment ça le challenge de tout le monde. Et ça commence par ce qu'on consomme, d'où ça vient, ce qu'on achète, etc. Comment on gère les milieux. Voilà, il ne faut, faut, faut pas mettre carré de sol nu, goudronné. Enfin voilà, il faudrait que tout soit éponge.
Eh bien, pour prolonger ces réflexions, précipitez-vous à la conférence Comment semer la pluie qui se tiendra à 15h30 le dimanche 26 mai à Lauroux dans le cadre du temps fort Histoire d'eau en Lodévois-Larzac. Et encore une fois, vous pouvez retrouver cette conférence également sur le site rphfm.org. Un grand merci Olivier Hébrard.
Avec grand plaisir.
Et à tout bientôt. Hein,
et du coup, à tout bientôt, j'espère.
Pour de prochaines émissions ou quoi. À très vite.
Merci, à très vite. Au revoir.
Histoire d'eau en Lodévois-Larzac, ce sera donc du vendredi 24 mai au dimanche 26 mai. Tous à l'eau.
Les gens qui s'aiment, 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 s'aiment. Les gens qui s'aiment, c'est merveilleux, même devant une dame. Les gens qui s'aiment, 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 s'aiment. Les gens qui s'aiment lorsque c'est interdit le font quand même. Les gens qui s'aiment, 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 s'aiment. Les gens qui s'aiment, c'est merveilleux, même devant une dame. Les gens qui s'aiment, 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 s'aiment. Semer une graine dans son jardin, protéger cette entité comme si c'était ton gamin. Élever ce brin d'herbe folle jusqu'à son destin, cueillir le fruit de cet amour qui rend plus serein.